Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Rotten sans flamme. Ah, qui va être grand, qui va être grand. Regardez-moi, ça, la musique, la Ligue des Champions. Écoutez, savourez, c'est magnifique. On se régale, vraiment. On a eu la confirmation que c'était la plus belle des compétitions. On vous le dit tous les ans. Mais à force de vous le dire, ça va peut-être se voir maintenant que c'est la plus belle des compétitions. Quel match hier, on s'est régalé. Et pendant 2 heures, on va débriefer tout ça. On va avoir de l'expertise. Enfin, dans une émission de la bonne expertise, parce que vous allez voir le plateau. On est avec François Pinet. Salut François.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va François?
Oh, quel régal. Je me suis régalé hier et je dois te dire que Niki, notre producteur, tu sais, ça fait 20 fois qu'il regarde le match, là, en boucle. Il n'a pas arrêté, là, depuis ce matin. Là.
Bon, il va réussir à l'analyser correctement, alors.
Peut-être.
Bon, on est avec. J'ai fait
en
un
casting. Ça se revoit.
J'ai fait un casting de fou parce qu'on les a convertis. Amoureux du Paris Saint-Germain. On est avec Souley Diawara. Salut Souley.
Salut Jean. Salut tout le monde.
Très bien. Sourire, ça me fait plaisir.
Ouais, non, j'ai eu le sourire. J'ai assisté à un très beau match. Et je suis ravi d'être avec vous.
Ah, nous, on est ravis que tu sois là.
C'est pour ça que j'ai le sourire.
Et on a notre Marocain avec nous aussi, c'est Christophe Dugarry. Salut Duga.
Salut Jérôme. Salut Duga.
Salut Duga.
Salut à tous les amis. François. Bon. Bienvenue. Ça va, c'est pas trop dur le rythme imposé. Non, ça va François?
Non, ça va là.
François, il est bien là.
Là, franchement, là, je me régale là. Là, franchement,
il a un peu les traits tirés. Tu t'en sors bien. Non, toi,
c'est super. Il a un peu les traits tirés par rapport à hier.
Ah, bah, j'ai pas dormi beaucoup. Ouais, j'ai pas réussi à dormir. Mais c'est difficile de dormir après un match comme ça.
C'est vrai.
Franchement, quand on les joue déjà, je pense que ça doit être difficile. J'ai pas cette expérience là, mais quand on les regarde déjà, j'étais un peu fatigué pour eux hier.
Ouais. Bon, écoute.
Bon.
C'est de la bonne fatigue.
Tu récupères bien en général quand tu fais des matchs comme ça.
Moi, j'ai pas trouvé qu'ils ont beaucoup couru, ils ont pas couru
t'as raison. Bon, en tout cas, on va débriefer évidemment cette rencontre. Vous allez réentendre les grands moments. Venez nous raconter d'ailleurs au 32-16 ce que vous avez ressenti devant ce match. Est-ce que c'est un match de légende pour vous? Vos messages également sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Match de légende, mais est-ce que le PSG peut nourrir des regrets? Ce sera à 19h. En face, on a vu aussi un match exceptionnel des attaquants du Bayern Munich. On parlera notamment de Michael Olise dans 45 minutes. On va débriefer son match avec un journaliste de chez Kicker en Allemagne. Et puis dans 30 minutes, Luis Enrique à la barre du tribunal de Rotten sans flamme. Et oui, on a trouvé un procès quand même. On a trouvé quelqu'un pour critiquer Luis Enrique, en tout cas la lecture du match du coach espagnol. J'en dis pas plus. Il y aura un procès. Ça sera dans 30 minutes. Et puis, bien sûr.
Il y en a qui ont des gaufres quand même.
Tu vas voir.
Hein.
Tu vas voir du gars. Et puis, bien sûr.
Qu'il l'a, mais...
On vous parlera aussi de l'autre demi-finale. C'est ce soir, 21h, à suivre sur RMC. L'Atlético de Madrid face à Arsenal. Et à 19h30, on vous parlera de ce nouvel Atlético de Madrid. Il paraît qu'il y a un nouveau style de jeu avec Simeone. C'est Edgar Grelot qui viendra nous dire tout ça. Je te sens pas convaincu.
Il y a un nouveau style de jeu, je sais.
Bon, voilà, on verra ça à 19h30. Je vous rappelle aussi qu'on vous offre toute la semaine un cadeau avec cette enceinte portable minotée de Lexon, enceinte que vous pouvez transporter partout pour écouter notamment le podcast de Rotten sans flamme grâce à un mousqueton intégré. Et pour remporter cette enceinte, vous venez participer au quiz à la fin de l'émission. Vous appelez le 32-16 touche 4 ou quiz au 7-32-16. Allez, tout de suite, on fait un autre cadeau. On se refait le film de la soirée, le film de ce PSG.
Fermez les yeux, lâchez le volant. On y va.
Et le César du meilleur film est attribué à
Paris Saint-Germain Bayern Munich.
C'est parti pour Kane contre Pierre 0.
Varaskelia se met sur le pied droit.
Ça a été un match très différent avec des équipes d'un niveau incroyable.
Corner pour le PSG. C'est parti pour Dembélé. Premier poteau, la tête. Et but. Olise droit sur réseau, réparation, maintenant le but d'Olise.
Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en fait un clash de deux idées similaires.
Dembélé, c'est petit filet. Dembélé qui laisse passer Kvaraskelia.
Deux grandes équipes qui attaquent, qui se posent pas de questions.
Dembélé, oh le but! Et deuxième poteau, la tête, et le but d'Upamecano.
Ça a été un match extraordinaire, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions. Les deux équipes ont proposé presque le même jeu.
Luis Diaz, le contrôle, excellent, sur le pied droit, la frappe de Luis Diaz! Ça fait 5-4. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce match?
C'est le meilleur match que j'ai participé. C'était incroyable.
Et voilà, la palme d'or peut-être pour ce match, un match de dingue. Est-ce que c'est un match de légende pour vous? Est-ce que vous le situez? On va en parler avec vous. On a entendu les commentaires de Jean-Louis Tour, de Valentin Jamin qui était aux commentaires avec toi, Jérôme, hier sur RMC. On va aussi en parler avec Fabrice Hawkins avant de vous entendre, qui était dans les tribunes du parc hier pour RMC également. Salut Fabrice.
Salut les gars.
Salut Fab.
Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est les coulisses évidemment de cet exploit. Comment les acteurs du match, on en a entendu quelques-uns, ont vécu ce festival offensif hier?
Eh bien, tout le monde est d'accord pour dire que c'était un match à part. Le spectacle était partout, dans les tribunes et surtout sur le terrain hier soir. Du suspense, des gestes de très haut niveau, 9 buts et un rythme infernal. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, n'en a pas raté une miette, on l'écoute.
Ça a été un match très différent avec des équipes d'un niveau incroyable. Et je pense qu'on a montré les deux équipes quel type de football nous sommes. Je suis tellement fatigué. Si je suis fatigué, je n'ai pas couru un kilomètre comme les joueurs doivent être. Ils sont démarrer le match meilleur que nous. Et après, on a changé le match de manière difficile, mais on a surmonté cet résultat. C'est un moment pour faire des félicitations à les deux équipes et à tout le monde qui était dans le stade.
Ouais, les joueurs ont aussi apprécié le moment, même si les Parisiens auraient aimé avoir plus d'un but d'écart, évidemment. Vitinha parlait après la rencontre du meilleur match auquel il a participé dans sa vie. Un match qui a laissé des traces, puisque les joueurs des deux équipes ont fini complètement fatigués. Maintenant, il faut recharger les batteries pour la semaine prochaine, avec, on l'espère, un nouveau duel de haute volée.
Est-ce que les défenseurs ont pris du plaisir aussi
Fabrice?
Alors, je pense qu'ils ont peut-être pris un petit peu moins de plaisir, surtout c'est sûr, sur les rotules. Ta question était ironique, Soulet, mais je pense notamment
non,
à Chabat.
Parce que nous, en tant que téléspectateurs, c'est sûr qu'on s'est régalé, mais tu sais que quand t'es joueur de foot, quand t'es défenseur, tu prends 4 buts ou 5 du côté du Bayern. Crois-moi que tu passes pas la même soirée que les offensifs.
C'est dans ce sens-là que je te dis ça. T'as tout à fait raison. Et certains sont même sortis sur blessure ou alors avec des petites gênes. Et ce sera à surveiller de très près. Mais c'est vrai que les défenses des deux côtés ont énormément souffert.
Oui, mais d'ailleurs, puisque t'en parles, on peut faire un point rapidement sur le cas le plus inquiétant peut-être pour le match retour, c'est celui d'Hakimi.
C'est mort.
Ouais, je vous confirme que ça va être très 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 compliqué. Effectivement, là ça va tomber de toute façon dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, mais on vous le révélait sur le site d'RMC tout à l'heure. C'est vrai qu'Achraf Hakimi, il a été touché aux ischios et ça sent pas bon du tout, quoi. Il a passé des examens ce matin.
Moi, je te confirme, Fabrice, qu'il jouera pas.
Ouais. C'est les infos que j'ai aussi, mais c'est vrai que tant que j'ai pas eu les docs, je m'avance pas à ce point-là.
C'est toujours pareil, de toute façon, image ou pas image, quand tu vois la blessure, comment elle intervient, et surtout le fait qu'il reste.
Hier soir, il disait que c'était des crampes, tu te souviens?
Ouais, non, mais c'est pas des crampes. On l'a vu.
Il posait le pied par terre. Il a été obligé de rassurer tout le monde.
Voilà, il a été obligé de rester sur la pelouse parce que tu pouvais plus faire de changement. Et donc, Luis Enrique le plaçait en faux numéro 9, un peu libre. Mais il arrivait même plus à se déplacer.
Ça, évidemment, on va se projeter sur le match retour. Ça sera à 19h. Fabrice, tu peux rester avec nous pour parler de ce match de légende. On a entendu tous les superlatifs autour de cette rencontre. Moi, j'avais envie de vous entendre tous les trois, Jérôme, sur ce que tu as ressenti, tout simplement, parce qu'on est encore dans l'émotion après cette rencontre, un peu même sous le choc de ce qu'on a vu hier.
En fait, je vais te faire une analyse comme la plupart, c'est-à-dire de passionnés de football. Passionné de football, on aime notre sport, tout de l'adrénaline que ça amène, des scénarios rocambolesques, et ça a été le cas aussi hier, entre une équipe qui prend le dessus, et comme l'a dit Luis Enrique au début, le Bayern, qui prend vraiment le dessus pendant 20-25 minutes, limite à mener 2-0, et puis après il y a un exploit d'un joueur qui relance une équipe, le PSG reprend le dessus, et puis après ça se renverse, et puis après le PSG, la surprise générale, prend 3 buts d'avance, et puis il y a ce relâchement, et puis donc le scénario est rocambolesque, l'efficacité au max. Paris, c'est 5 frappes cadrées hier, 5 buts, donc c'est très rare dans un match de foot. On a eu la chance que ça soit Duga, je me souviens de certains de vos matchs, Duga et de tes matchs, Soulet pareil, moi pareil. Ce que je veux dire, c'est que les grands matchs, quand tu réalises des grands matchs, c'est que t'es en général très efficace. Là, c'est plus qu'efficace. 5 tirs cadrés, 5 buts. Donc ça montre à quel point les mecs étaient concentrés, étaient à leur meilleur niveau d'un point de vue de la créativité et offensivement. Et de l'autre côté, le Bayern, c'est pas loin, c'est 4 buts avec sur 7 tirs cadrés. Donc tu vois, donc c'est quand même pas mal. Et à côté de ça, t'as le nombre de frappes. Le PSG, rappelle-toi, sur certains matchs, c'est des fois 25, 30, 35 frappes dans un match de tirs. Là, hier, c'est que 12 tirs pour le Paris Saint-Germain. Donc, ça montre à quel point, si tu veux, ça s'est joué à des détails, mais des détails de très grands joueurs qui, tactiquement, techniquement, ont été à un niveau stratosphérique. Là, je rajoute, si tu veux, le rythme du match, parce que, comme tous les grands matchs, bah forcément tu cours plus que d'habitude et ça part d'un côté comme de l'autre, et puis après il y a le dispositif et ce que veut mettre en place les entraîneurs, et c'est vrai qu'ils ont une politique. Luis Enrique, on le découvre, du moins on le découvre plus maintenant, mais depuis 3 ans au PSG, c'est ce qu'il veut mettre en place, avec une équipe qui est poussée vers l'avant, qui veut marquer beaucoup plus de buts que l'adversaire, et d'autant plus depuis un an et demi où il a aussi changé quelques stratégies, ce qui lui a permis d'être champion d'Europe. Et puis de l'autre côté, on a aussi la bonne surprise du côté du Bayern, et il le montre de match en match, ouais. Avec Compagnie, qui leur demande aussi, quand tu vois les risques qu'il prend hier, alors que tu viens jouer chez le champion d'Europe, au Parc des Princes, que tu acceptes, si tu veux, de rester en 3 contre 3 défensivement, que tu réinjectes un joueur défensif au milieu de terrain pour avoir un peu plus de maîtrise, et ce qui a bien fonctionné aussi, avec des joueurs d'exception, c'est sûr que ça rend un match fantastique. Le scénario, en plus de ça, au Parc des Princes, c'est pas parce que c'est le parc et que moi c'est ma maison entre guillemets et que j'adore ce stade, j'ai grandi là, j'ai été éduqué dans le football au Parc des Princes, mais quand je le vois dans cette ambiance là, oui, ambiance Ligue des Champions, forcément tous les ingrédients étaient hier, plus les acteurs et ce qu'ils nous ont offert, un spectacle incroyable. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, c'est un match de légende. Sans aucun doute. Alors après, est-ce que c'est un des plus grands matchs pour parler du Paris Saint-Germain au Parc des Princes? J'irai pas jusqu'à là parce qu'il y a une histoire aussi, même si elle est récente, l'histoire du PSG. Ce club a un peu plus de 50 ans, donc forcément il y a eu des grands matchs de Coupe d'Europe. Donc je vais pas te dire il y avait plus d'émotions hier, plus de grands matchs hier par rapport à d'autres matchs. Il y a eu des grands matchs. Par contre, ça fait partie des matchs qu'on retient et qu'on retiendra encore dans quelques années, parce qu'on se souviendra que 9 buts en demi-finale de Ligue des Champions, avec des grands joueurs partout, et certainement les meilleurs joueurs du monde qui étaient sur la pelouse hier. Bah, écoute, franchement, on n'avait que juste à se régaler.
2,8 millions de téléspectateurs hier devant ce match, et puis beaucoup qui ont écouté également RMC. Duga, tu disais lundi, on s'en souvient dans Rotten Sans Flamme, que tu en attendais beaucoup de cette rencontre.
T'as été servi, là.
Voilà.
Effectivement, j'ai pas été déçu. C'était vertigineux. Moi, c'est l'adjectif qui pour moi me convient le mieux sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai vécu. Ça a été tout bonnement incroyable. Après, ça me fait me remettre en question. C'est souvent, je me pose la question quand je fais des analyses et quand je ressens des choses. Beaucoup pensent que je suis trop dur. Moi aussi, des fois, quand je coupe le micro, je me dis est-ce que j'ai été trop dur ou pas. Je suis pas convaincu que toutes mes analyses soient les bonnes, mais au moins elles sont ce que je ressens au football. Exactement, Jérôme. Mais ça m'a rassuré. Ce que j'ai vu là, je me suis dit mais mon exigence, c'est l'exigence que je demande quand je veux voir du beau football avec des grands joueurs, avec des bons joueurs qui sont payés des sommes astronomiques et qui le voient la personne, bien évidemment. Mais mon attente pour le football, elle a été récompensée hier soir. Elle a été récompensée parce que je suis convaincu. Alors là, on atteint le paroxysme, on atteint le summum du summum de ce qui peut se faire. Mais je suis convaincu que ce football offensif doit être la solution et doit exister beaucoup plus que le football de possession stérile que l'on voit, où ça ressemble souvent à des matchs de handball où on se pose la question avant 10 fois, est-ce qu'on fait la passe entre deux, est-ce que on s'engage, est-ce qu'on fait cette course parce qu'il faut assurer là, il faut assurer la sécurité, l'équilibre, le machin, le ci, le là. Voilà, moi je de par mes analyses, de par mes commentaires qui sont parfois certainement durs, peut-être trop durs, je suis convaincu que ce football existe. On l'a déjà vécu. Attention.
Oui.
On l'a déjà vécu. Souvenons-nous du grand Barça. Il y a eu l'Ajax, le football total, certainement. Il y a eu le Brésil. Il y a eu l'Allemagne à une époque là quand ils sont champions du monde où ils sont exceptionnels. L'Espagne avec son équipe aussi. Ouais. On a vu des matchs exceptionnels aussi. Mmh. Et sincèrement, celui d'hier, sincèrement, si un jour il y a un Louvre du football, ça sera la Joconde. Voilà, sincèrement, ça sera la Joconde. Ce qui s'est passé hier, c'est le must du must de ce qu'il peut avoir. Alors après, on pourra tout à l'heure saouler en rigolant. Il parlait des défenseurs, mais même les défenseurs, qu'est-ce que tu veux reprocher aux défenseurs quand pendant une heure et demie, tu vis des un contre un systématiquement.
Mais c'est pour ça que je dis que c'est difficile pour un défenseur.
C'est injouable, c'est improbable. Ah ouais. Même les meilleurs défenseurs du monde aujourd'hui, quand t'as des mecs qui t'arrivent avec la qualité technique, de vitesse, de technique, pied droit, pied gauche, qui arrivent en face à face, c'est impossible. En un contre un, tu peux pas. Alors tu vas gagner des duels. On voit Upamecano, il gagne un nombre incalculable de duels. Il a la force, mais tu te rends compte l'effort physique, le défi physique, la concentration qu'il te faut quand t'as des un contre un, que le mec il peut aller un coup à droite, un coup à gauche. C'était exceptionnel de plaisir. Moi, je t'ai dit, j'avais le vertige. Pour moi, c'était vertige.
C'est parce
que tu dis, mais ça va s'arrêter où? Ça va monter jusqu'à où? Jusqu'à où on peut ressentir ça? Moi,
je peux te dire qu'au stade du gars, les 95 minutes, elles sont passées à une vitesse. C'était vertigineux aussi, je peux te le dire.
Et ce football, tu vois, Jérôme, ce football, il doit aussi nous servir. Il doit aussi nous servir. Parce que je pense que beaucoup d'entraîneurs, alors bien évidemment que les joueurs qui jouent ce football-là, ils ont quelque chose de particulier. On parlait des défenseurs, ils sont très très forts dans les duels. Ils sont forts techniquement, ils savent anticiper, ils vont vite. Ils ont plein de qualités que d'autres n'ont pas. Mais mon Dieu, quand même, je pense qu'on peut y arriver quand même à un football où on a le droit de jouer, quoi. De jouer, se faire plaisir et de penser à donner du plaisir. Parce que les deux entraîneurs, bien évidemment qu'ils veulent gagner. Mais je suis persuadé que quand tu mets en place un football comme ça, t'as envie de prendre du plaisir, d'en donner et d'amener tes joueurs à en prendre aussi. Et là, on est dans une notion de plaisir qui est totale. Tout le monde se régale et ça, c'est quand même génial, quoi.
Le plaisir avant tout. Voilà. Peut-être d'autres entraîneurs vont être inspirés par ça. Hein.
Moi, je voulais même pas que le match finisse parce que c'est passé à une vitesse où on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Je me suis régalé sur tous les points, que ce soit défensivement, offensivement, sur l'aspect tactique, technique. C'était une qualité technique, mais c'était incroyable hier, ce match-là. Et je te parle pas de l'intensité, parce que bon, tout le monde l'a vu, même les joueurs, ils ont fini avec des crampes. Donc,
surtout le côté parisien.
Ouais, c'est pour te dire l'intensité que les joueurs ont mis. Mais ouais, c'était un pur bonheur. C'était, pour moi, le plus beau match de ce nouveau football. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que en ce moment on voit trop de équipes qui essayent de faire la possession du gars, tu l'as dit tout à l'heure, mais là non, les deux équipes, ils avaient ce même style de jeu, aller jouer toujours vers l'avant, ne jamais
comme quoi on peut courir cette intensité. Pourquoi les autres joueurs de foot, alors peut-être que t'as pas la même technique que les attaquants qu'on a vu hier, certainement ils sont pas aussi forts, mais pourquoi on n'a pas toujours pas autant l'intensité, mais quand même avec cette envie première d'aller créer,
mais surtout l'envie
de courir,
l'envie de faire mal en fait de te surpasser, dépasser. On parle souvent de courir.
Les Allemands, ils n'ont pas été crampés. Les Allemands, ils sont pas crampés.
En fait, moi, je comprends ce que tu dis, Soulé aussi, et Dugas, bien sûr, sur le dépassement de fonction. Tu vois, très souvent, on t'en parle, les entraîneurs, tu dis, bon, écoute, là, vous avez le droit à ce dépassement de fonction, mais attention quand même, parce que l'équilibre, en effet, ça, là, on a deux entraîneurs, si tu veux. Franchement, c'est plus le déséquilibre qu'autre chose qui demande dans les changements de position, les joueurs qui sont totalement libérés. Quand tu vois, regarde, je te prends l'exemple.
Mais même dans l'analyse du match, regarde Luis Enrique. Luis Enrique, hier dans sa conférence de presse, il te dit quoi? Il te dit, il va falloir bien défendre parce que c'est des équipes qui attaquent très bien. Il va falloir bien défendre. Il te le dit. Tu peux dire, bon, dans son souci de préparation, il va faire attention à la défense. Mais deux secondes après, il te dit, mais malgré tout, on va chercher à attaquer. Il sait que face à lui, il a des monstres, que ça va venir dans tous les sens. Il pourrait se dire, je vais être un petit peu plus machin. Pas du tout. Il se dit, mais le but quand même, on va quand même aller jouer ce match pour attaquer et pour attaquer mieux qu'eux.
Mais c'est rare qu'un entraîneur en plus qui prenne autant de buts et qu'il soit satisfait à la fin du match.
Mais parce que c'est pas Soulé, moi je sais pas. Alors toi t'es défenseur, donc je pense que t'as une réflexion sur les défenseurs. C'est sûr qu'aujourd'hui on retient les attaquants à juste titre. Ils ont été très efficaces. On s'est régalé dans les contrôles, dans les passes D, dans la finition, dans les dribbles. Vraiment, c'était quasiment du 100%. Les joueurs offensifs. Mais défensivement, moi quand je te donne les stats. C'est le cas parce que les stats, il y a stats et stats. Mais quand tu vois que le PSG a que frappé 12 fois au but, ça veut dire aussi que défensivement, le Bayern a coupé Upamecano, par exemple. Upamecano. Et franchement, je l'ai trouvé énorme. Je l'ai trouvé énorme dans ces trucs. Peut-être les latéraux du Bayern un petit peu en dessous par rapport au reste. Et côté parisien, c'est la même chose. Tout le monde retient, oui, Marquinhos à la rue, à un mètre du marquage sur le but.
Ça souffre.
Non, mais d'accord.
C'est aussi.
Non, mais
il a pas. Ils ont parfaitement.
Mais tout à l'heure, on parlait de Jérôme en off tout à l'heure. Un joueur comme Olise tout à l'heure, en tant que défenseur.
Ouais.
On en parle tout de suite.
Vas-y.
Non, mais un joueur comme Olise,
on va en parler bien sûr plus longuement.
Quand tu regardes ses matchs, comme je disais tout à l'heure à Jérôme, lui, c'est un joueur, on dirait qu'il va tout le temps l'extérieur, il prend l'extérieur et pas. Mais hier, il t'a démontré que même si tu lui laisses.
Tu bloques l'extérieur, il prend l'intérieur.
C'est très compliqué à défendre sur les joueurs.
Mais hier, en lisant la presse ce matin, j'ai vu, je crois que c'est sur Eurosport, je regardais ça avec mon fils. Mm-hmm. Je crois que j'ai vu, il y a des joueurs qui ont eu des 3 ou des 4.
Non, c'est n'importe quoi.
Mais comment, après un match comme ça, tu peux te dire, je vais mettre 3 Marquinhos ou 3 Pachao. Mais les mecs, ils ont. Et c'est là que tu vois que les mecs, ils n'ont jamais été sur un terrain.
Exactement,
c'est ça. Mais tu te dis, mais. C'est fou. Minimum sur un match comme ça, tu mets un 8 sur 10 à tout le monde.
Mais oui. Mais parce que du gars, le truc, comme Soulé le disait, quand les mecs, ils jugent Marquinhos, par exemple, pour parler juste de Marquinhos, et qu'ils te mettent un 3 à Marquinhos en disant oui, mais il est à un mètre du marquage sur Luis Diaz. Et puis, il sort pas sur Olise. Non, mais les gars.
Mais ils savent ce que c'est qu'être en face d'Olise ou en face du Colombien, là.
Combien de fois Marquinhos, quand Hakimi montait et que Luis Diaz retrouvait en 1 contre 1 avec Marquinhos, Marquinhos a bien compensé, l'a fait reculer aussi. Combien de fois? Ça, vous avez pas retenu, en fait.
Non, mais m'attaque pas moi.
Ben si, parce que toi, t'es le premier à nous dire que Marquinhos, il a fait un match de merde.
Non, je suis pas le premier. Et d'ailleurs, moi, j'admets que.
Je suis pas le premier, il a dit. Il se défend, je suis pas le premier.
T'as vu la défense un peu du gars? Il y a Clarence Seedorf, et il a joué au foot, Clarence Seedorf. Ouais, Clarence Seedorf. Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai pris un pied incroyable avant ce match. Ouais. Mais Clarence Seedorf, qui était sur la pelouse pour une télé étrangère, a dit, c'est formidable pour le côté spectaculaire, mais il fut un temps où la défense était aussi un art qui était apprécié. Elle doit faire partie intégrante du jeu. Citez-moi un seul sport que l'on peut gagner sans une défense digne de ce nom. Je ne crois pas que ça existe.
Là où je pense qu'il a tort, et je parle sous le contrôle de Soulé, là où il a tort, c'est que défendre, c'est un jeu de compensation.
Ouais, oui.
Défendre comme ça a été défendu en 1 contre 1 sur tout le terrain, c'est du jamais vu. Ça n'existe pas. Lui, il parle d'une façon de défendre avec des compensations, les couvertures. Là, il y a rien. Il y a pas de couverture. C'est du 1 contre 1 systématique. Donc, il parle d'une défense. Seedorf, ça a été un grand joueur. Il y a pas de souci. Il a gagné 3 Ligue des Champions. Je crois avec 3 équipes différentes. C'est un des rares joueurs à avoir fait ça. Mais il parle d'un truc qui n'existe pas. Se réfère à un football, à une défense. C'est un jeu qui n'existe pas.
Et puis Duga,
ce qu'on a vu hier, c'est du jamais vu.
Et puis Duga, pour répondre le 1 contre 1, et Soulé est mieux placé que nous pour en parler, parce que très souvent, tu t'es retrouvé en 1 contre 1 aussi. Tu sais très bien que sur ce genre de match, quand tu acceptes ce fameux déséquilibre et ce 1 contre 1 derrière, et côté Bayern, c'est la même chose. Quand tu as des mecs en face de toi qui s'appellent Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Harry Kane, Diaz, Olise, mais bien sûr dans de 1 contre 1 par moment tu vas perdre ton duel. Mais automatiquement c'est des grands joueurs, donc ils vont faire des différences. Quand tu es du 1 contre 1, si tu gagnes ton duel, derrière il y a des espaces qui s'ouvrent. Après, si tu es efficace, qui a été le cas de tous les attaquants hier, tu finis par des buts. En plus, si les gardiens, ils en chopent pas une, et ce qui a été le cas de Safonov et de Neuer hier, quand tu vois le nombre de tirs cadrés,
mettre pas la moyenne à Safonov ou Neuer.
Non, mais il y a des gardiens qui sont mieux inspirés qui font des grands matchs.
Mais
c'est pour ça que
faut pas non plus.
En plus, Soulé, c'est pas pour attaquer les gardiens. Moi, je suis pas là. Bien sûr que Safonov, il laisse le PSG dans le match quasiment à 2-0, il les relance même. Et bon, Neuer, bon, écoute, Neuer sur le match d'hier, franchement, quand tu vois les buts du PSG, c'était des top buts, il peut pas grand chose. Donc, mais accepter si tu veux ce 1 contre 1 et forcément que les défenseurs par moment ils soient pris.
Bon, juste...
Mais alors les défoncer en nous disant ouais, il est trop vieux, il a la charrette, il handicape son équipe.
Quel défenseur
non mais franchement,
hier.
Non mais. Non mais c'est pas moi. Non mais c'est pas possible de dire ça.
Mais
j'imagine que là je tombe. Je vois.
Mais c'est intéressant
y a
justement
un site,
pour ceux qui regardent les matchs, qui connaissent pas le foot comme vous sur le terrain.
Comme Benoît, c'est pareil.
Il met 4 à pas de chaud. 4 à pas de chaud.
Non mais moi je pense qu'aujourd'hui le meilleur défenseur du monde aujourd'hui c'est Upamecano.
Je
pense que c'est le meilleur. Hein? T'as vu hier. Alors il gagne des duels certes, mais lui aussi il prend des bouillons comme tout le monde.
Et puis au final il a eu 5 buts effectivement marqués par le PSG. Juste Clarence Seedorf, c'est 5 Ligue des Champions pour pas qu'il se vexe si jamais il nous écoute.
5 ah pardon, c'était 3 avec 3 équipes différentes. Donc c'est 5 avec 3 équipes différentes, c'est ça.
Mais Clarence Seedorf, quand tu vois le joueur que c'était, heureusement qu'il a eu des équipes joueuses aussi et des joueurs bons techniquement qui aimaient aller de l'avant, parce que sinon il aurait pas fait cette carrière là. Non mais c'est vrai,
un super joueur Clarence Seedorf.
C'est ce que je te dis. Tu vois, les défenses.
On l'aura pas un invité déjà.
Bon,
on est bienvenu. On est ouvert quand même dans Rotten sans flamme. On accepte tous les avis.
Exactement.
Voilà.
Et puis ils ont tous envie de venir.
Allez, on va continuer bien sûr de débriefer
c'est
cette rencontre.
Qui accepte pas.
Vaut mieux dire l'inverse, comme ça on est tranquille.
Restez avec nous, 18h25. On continue de débriefer évidemment ce match de légende PSG Bayern. Dans un instant, on va faire le procès quand même de Luis Enrique. Et de sa lecture du match. Attention, grand moment. Allez. C'est dans un instant sur RMC dans Rotten sans flamme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. Et on est heureux. On est heureux qu'un club français nous donne autant de plaisir. Le Paris Saint-Germain, Souley Diawara, Christophe Dugarry, François Pinet. On passe un bon moment. On continue le débrief de ce Paris Saint-Germain.
Bien sûr, on parlait de match de légende.
5-4.
Ouais, il y avait eu le 5-5 quand même. Lyon-Marseille.
Oui, c'est
un championnat.
C'est la seule fois où
je me rappelle à ce match-là, les défenseurs avaient été très mauvais.
Mais c'est vrai,
ils avaient mérité leur 3 dans l'équipe.
Deschamps nous avait tués.
Deschamps à 5-5, c'était pas son droit.
T'avais eu combien dans l'équipe, tu te souviens?
Oh, je regarde même pas ça.
Il avait marqué un but.
Ouais, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est les mecs qui te jugent, qu'ils ont jamais joué au foot.
C'est vrai.
Ils ont deux yeux, mais ils ont le temps de regarder 22 acteurs. Tu vois?
Ouais, c'est vrai.
Donc, les notes.
C'est pas comme ça que ça se passe à RMC. On est une armée pour.
Dis-toi que François a mis des notes hier du stade aussi.
Exactement.
Mais à donner, j'ai foutu à la poubelle.
Je te dirai pas lesquels.
À 18h45, François.
On va recevoir un de nos confrères allemands de Kicker qui va nous parler. De la note de Michael Olise. On pourra lui demander comment ils l'ont noté en Allemagne. Tu sais qu'en Allemagne, c'est une notation différente. C'est 1, c'est une bonne note. Et 6, c'est pas bon. Bon, on nous expliquera tout ça. On verra si c'est le meilleur joueur, effectivement, du côté du Bayern.
Et à vol.
Olise qui a fait un match formidable. Mais d'abord, c'est le procès de Rotten sans flamme. On y va.
RMC, Rotten sans flamme.
Plusieurs fois, il fait des passements de jambes, ces trucs techniques. Je vais pas passer au ralenti devant toute la terre, moi. Non. Donc, je l'ai averti. Je l'ai regardé, je lui ai dit une fois, je suis pas ton fils, moi. Je suis pas avec moi.
Le procès de Rotten sans flamme.
On pourrait le faire, ce procès, un jour, mais c'était il y a bien longtemps, il y a prescription.
C'est vrai.
Accusé.
C'était pas contre Lyon, ça. Hein?
Non, pas du tout.
Non.
Accusé du jour, après ce match fou, et oui, on a trouvé un accusé. Luis Enrique, le coach parisien, accusé.
C'était dur.
De ne pas avoir toujours pris les bonnes décisions pour éviter le retour du Bayern, notamment lorsque le PSG menait 5-2. Procureur de ce soir, monsieur Rotten.
Bonsoir à tous.
Avocat de la défense, maître Dugarry, maître Diawara, bonsoir messieurs.
Vous n'avez pas étudié.
Le juge au 32-16, c'est Thomas. Bonsoir monsieur le juge.
Bonsoir messieurs.
Salut Thomas.
Bonsoir. Merci d'être avec nous, juge impartial qui a suivi ce match, bien sûr, de très près.
Merci de me faire gagner.
Monsieur Rotten, pour vous, Luis Enrique aurait dû avoir une autre lecture du match? C'est un peu trompé.
Alors après, c'était après tout ce qu'on a dit depuis une demi-heure, c'est sûr que c'est compliqué d'attaquer l'entraîneur. Mais si tu rentres dans les détails et tu l'analyses froidement ce match, en retirant les émotions et tout ce qu'on a dit de très bien à juste titre pendant la première demi-heure, tu te dis que le technicien, le grand technicien et le chef d'orchestre qui est Luis Enrique, en effet, le plus important dans cette double confrontation contre le Bayern Munich, c'est de se qualifier et de s'offrir une finale. Donc le but, c'était de prendre un avantage et de gagner le match, ce qui a été fait, donc on les félicite. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu vois le scénario du match et que tu te rends compte en effet que ce match était un match de dingo et que à 5-2, en effet, l'addition était très lourde pour le Bayern, parce que je pense très honnêtement que le Bayern ne méritait pas de perdre par 3 buts d'écart à la
60e
à
minute,
la 60, ouais, ouais. Même un peu avant, hein, le dernier but de, ouais, c'était à la 58e.
Ouais.
Donc 58e minute, tu te retrouves avec 3 buts d'avance. Il reste donc une grosse demi-heure à jouer. En effet, tu te dis bon, voilà, le plus dur est fait, du moins on les a mis, ils ont la tête sous l'eau. Le Bayern, et c'est vrai que pendant quelques minutes, ils savaient plus où ils existaient. Ils étaient dans une enceinte au Parc des Princes qui avait pris feu. Il y avait une ambiance de malade. Et là, on n'était pas loin du 6-2, en effet, où il y avait de l'euphorie de partout. Alors, moi, je pars du principe que l'entraîneur, et le grand entraîneur qu'il est, et il l'a montré, et c'est pour ça que le PSG est champion d'Europe, il doit avoir un peu de recul et ne pas être dans l'euphorie. Et je trouve que, en effet, c'est le constat que j'ai eu, c'est que il est resté dans cette euphorie, dans le stade, dans le truc, avec ses joueurs qui se livraient, qui allaient, qui calculaient pas. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que ce qui m'a étonné, et pour moi, le regret que j'ai pour le Paris Saint-Germain hier, c'est de gagner que par un but d'écart. Et pourquoi? Parce que le troisième but, le but sur coup de pied arrêté de Upamecano sur son coup franc de Kimmich, il me reste un petit peu en travers de la gorge. Je t'explique pourquoi. Parce que Luis Enrique, il fait un changement juste avant le coup franc. Alors je sais pas, même au niveau amateur, quand on est jeune, en général, que ça soit des corners que tu concèdes ou des coups francs qui peuvent amener à une situation dangereuse pour l'équipe adverse, tu ne fais pas de changement à ce moment-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu fais un changement, n'importe quel joueur, automatiquement le mec il rentre, il y a des consignes qu'on lui a données, parce que toi tu prends un tel au marquage, tu prends un tel au marquage, donc en fait il s'éparpille un peu les mecs en termes de concentration. Et je trouve que ça manquait, si tu veux, de réflexion de Luis Enrique à ce moment-là. Et
qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse?
Ben, j'aurais voulu qu'il fasse le changement après le coup franc, déjà.
C'est juste ça.
Et après, je vais te dire, Duga, quand tu as une lecture sur un match aller-retour, le plus important, je le répète, c'est pas d'amuser la galerie. Je dis pas qu'ils ont amusé la galerie, mais de marquer les esprits. En effet, le plus important, c'est de te qualifier. Moi, je me dis que quand t'as 3 buts d'avance, en effet, au bout d'un moment, il faut peut-être accepter de fermer un petit peu la boutique. Alors, je dis pas qu'ils doivent faire un catenaccio et tous derrière, c'est pas le but. Mais quand tu sors Zaïre Emery à la 64e minute, qui pour moi, un des meilleurs milieux de terrain hier encore, et qu'il avait un gros peps et qu'il gagnait ses duels, lui, il aurait pu t'aider, si tu veux, sur une fin de match où la maîtrise était plus bavaroise que parisienne. Et en effet, à travers ce changement-là, et le fait qu'il a pas réussi à fermer et que tu prends ce but sur coup de pied arrêté, bah, ça a mis un petit peu la panique. Et que derrière le 5-4, bah, tu tiens, tant mieux. Mais j'ai un peu de regret par rapport à sa gestion de ces changements et de ce changement avant le coup franc.
Avocat de Luis Enrique, premier avocat, puisqu'il a les moyens d'en avoir plusieurs, visiblement, Maître Dugarry.
Non, mais moi, par principe, je refuse sur ce match-là d'incriminer et de critiquer qui que ce soit.
Oui, voilà.
Non, moi,
c'est
trouve
dur.
Ça va à l'encontre de ce qu'on vient de dire et de ce qu'on a vécu et voilà. Donc, moi, déjà, par principe, je trouve ça naze. Après, ce que demande Jérôme, moi, il t'explique que les joueurs étaient en ébullition, le stade était en ébullition, tout le monde était en ébullition, que c'était un truc de fou, une ambiance de fou. Il faudrait que l'entraîneur reste un glaçon. Je vois pas comment il peut faire. Lui aussi, il vit, il a ses émotions, comme il a dit après le match, il était fatigué, peut-être encore plus que les joueurs. Donc, bien évidemment que il vit ce match à 200%.
Oui, c'est vrai.
Et en plus, là où j'apporte un bémol et après je laisse la place à Soulé, c'est que je pense que ce que demande Jérôme et ce qu'aurait aimé Jérôme, je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de le faire. Je pense que c'est pas leur jeu. Je pense qu'ils sont pas capables aujourd'hui de défendre, même en gagnant 5-2, rester recroquevillé derrière en disant on ferme la boutique. Je pense que c'est pas dans leur ADN et je pense qu'ils sont incapables de le faire.
Ouais, mais Dugas, regarde la réflexion de Dembélé à la fin du match et qui t'explique, qui dit oui, le regret qu'on a, c'est à 5-2, on a arrêté de jouer.
Oui, de pas avoir continué à attaquer.
Ouais.
Mais je suis pas persuadé
pas
que.
De fermer, ouais.
Voilà, je sais pas le sentiment que dans son discours il dit. Je pense qu'on aurait pu fermer, on aurait dû défendre, on aurait non. Ils ont arrêté de jouer. Ouais. Ils ont mis un petit peu moins d'intensité, un petit peu moins d'agressivité. Bah, un
est-ce
peu
que
moins
c'est pas l'entraîneur qui doit transmettre ça?
Est-ce que tu trouves que ces changements ils sont ridicules? Ils changent, ils mettent Fabien Ruiz. Voilà, qu'aurait pu être titulaire, même s'il n'a pas joué depuis longtemps, mais voilà, c'est un titulaire, c'est pas un remplaçant, c'est un titulaire bis. Ouais. Et tu mets Barcola, qui aurait pu jouer à la place de Doué. C'est pas des changements, mais c'est tellement difficile, les Girondins, de rentrer dans un match comme ça. Ouais, ça aussi, on n'y pense pas. Peut-être qu'ils n'ont pas été aussi performants, les remplaçants, que les titulaires. Mais la difficulté de rentrer dans ce genre de match. Le Bayern, le Goretzka, moi, je l'ai trouvé nul quand il est rentré.
Pas bon du tout.
Ah ouais. Ils sont Moussala. Goretzka,
c'est vrai.
Voilà, donc c'était difficile des deux côtés pour les remplaçants, j'ai trouvé.
Bon, après c'est difficile encore une fois de juger
Luis Enrique
parce que au vu du match qu'on a vu hier, c'était juste incroyable. Je te rejoins moi, Jérôme, c'est par rapport à tu dis que le changement qu'il a fait de Fabien Ruiz
avant le coup franc arrêté.
Maintenant, je pense que Luis Enrique nous a démontré plusieurs fois que c'est plus le football d'avant, tu vois. Il nous a montré qu'on pouvait jouer sans attaquant et marquer plus de buts.
Ouais.
Et là, maintenant, qu'il fasse rentrer Zaire Emery, Fabien Ruiz.
Fabien Ruiz, oui.
Juste avant de couper d'arrêter, je pense que c'est pas ça qui a perturbé.
Ils font une erreur quand même sur le coup franc. Ils font une erreur. Ouais, Safonov d'appréciation et de marquage aussi.
Mais c'est comme si tu dis que le Bayern a fait une erreur quand Neves marque le but de la tête. Tu dis le mec il fait 1m74, ils sont tous des géants. Et lui il arrive à marquer de la tête. Bien évidemment qu'il y a des erreurs.
T'as raison. Je suis pas en train de te dire. Je suis pas en train de les fracasser. C'est juste essayer de trouver une petite critique à un match incroyable.
Un petit truc voilà que pendant le match.
Et surtout,
j'aurais peut-être pas fait comme ça aussi.
Il a voulu mettre de la hauteur quand il fait rentrer Fabien Ruiz.
Je pars du principe et vous savez. Tout le respect et l'amour que j'ai pour Luis Enrique depuis qu'il est à Paris, j'ai toujours défendu corps et âme parce que je trouve que c'est un génie. Et pour moi, les génies, ils doivent être toujours au top. Et pour moi, hier, en effet, je pense qu'il a un peu sa part de responsabilité sur la fin de match. Mais après, attention, c'est pas dramatique. Le PSG est quand même devant avant le match retour.
Bon, Thomas est avec nous au 32-16 pour le verdict. Luis Enrique coupable ou acquitté. Thomas, c'est un juge, je pense, qui en plus s'est régalé devant le match, j'imagine.
Oui, qui ne s'est pas régalé, forcément. Voilà. Après, non, coupable, le mot est bien trop fort pour l'imputer à Luis Enrique. Sur un match comme ça, avec autant de buts, effectivement, du Galadi, dans ce cas-là, le Bayern est fautif parce que Neves met la marque de la tête. Mmh. Enfin, on peut essayer de chercher des petits trucs qui vont nous faire dire, ah oui, là, il y a une erreur, etc. Après, si on parle du changement en lui-même, vous l'avez dit aussi, il faut avoir fait un peu de foot. Moi, quand Fabien Ruiz il est rentré, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, alors faut être costaud, rentrer dans un match comme ça avec une intensité folle, quand t'as pas joué depuis longtemps, comme la fait Fabien Ruiz, faut être. Il a eu du mal, Fabien Ruiz.
Faut
être costaud. Bon, Goretzka, c'est pareil, il est rentré, il a pas réussi à se mettre dedans. Bon voilà, c'est un match de grands champions, de grandes équipes. Forcément, à un moment, t'as des erreurs, t'as des.
Considères quand même que c'est une petite erreur d'avoir fait rentrer Fabien Ruiz à la place de Zaire Emery.
Le mot est trop fort pour dire coupable.
Oui, maintenant, bien sûr.
On peut pas, sur le changement, quand Fabien Ruiz y rentre, on peut pas se dire, on va prendre deux buts. Non, moi, je peux pas dire que Luis Enrique est coupable.
Oui, mais ces matchs-là.
Mais tu regardes, je suis d'accord, Jérôme, Rennes, c'est vrai que dans l'impact, moi, quand Fabien Ruiz y rentre, je me dis quand même, on perd un peu en impact.
Pour garder
du ballon, pour contrer un peu, faire une petite faute, etc., quand il faut.
Surtout que Dembélé l'avoue, te dit, après le cinquième but, on a arrêté de jouer.
Alors ça, je pense que
on n'essaye pas d'influencer le juge.
Ça, je pense que
c'est pas la faute de l'entraîneur. Ça, ce sont les joueurs, ça.
Ouais, mais c'est les joueurs, tu vois.
Mais c'est,
je pense
c'est,
qu'il y a un moment où c'est physique, Jérôme.
Parce non, c'est mental. C'est mental aussi. Voilà, t'as à trois buts d'avance, t'as tendance à reculer, à laisser le ballon à l'adversaire. Maintenant, encore une fois, et tu es d'accord avec moi, Luis Enrique, il doit s'habituer à ça.
Thomas, le verdict.
Merci Thomas.
Bon, Victor
de
Jérôme.
Je penche en faveur
bon, merci Thomas.
Bon, après, merci beaucoup, Thomas. C'est des grands supporters du PSG maintenant. Mais donc, oui, bon, bien sûr. Bien.
Je vois Soulet avec son beau maillot du Paris Saint-Germain. Il est magnifique.
Il une série de victoires au procès, mais c'est, doit être indécent.
Ouais, c'est une semaine, c'est fou.
C'est dingue.
Merci encore à Thomas. Dans un instant.
On dirait, c'est le Olysée du.
On va en parler. Quelle passe décisive. Encore une de plus. On la compte celle-ci, la passe décisive, là, dans l'émission. C'est une passe décisive dans l'émission. On va parler d'Olysée dans un instant.
Je sais pas, j'ai le record encore en Ligue 1 de la passe décisive, donc on peut
plus
y aller.
Une pour Jérôme Rotten. On parle de Michael Olysée dans Rotten sans flamme dans un instant avec un confrère allemand qui sera avec nous en direct sur RMC. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC, on est là dans les 10 dernières minutes de la première heure, mais vous inquiétez pas, après 19h, on est de retour avec Soulet Diawara, avec Christophe Dugarry, avec François Pinet. On va passer encore une heure et quart en très bonne compagnie avec vous. Soyez patients, on est là jusqu'à 20h.
Là, on va se régaler encore parce qu'on va continuer de parler de ce match de légende, PSG Bayern. On a encore énormément de choses à dire. On va se projeter sur le match retour dans quelques instants. On vous posera la question, est-ce
quasiment
que vous avez des regrets spéciale. Quasiment, ça mérite. Hein.
Ouais,
pas tous les jours des matchs comme ça.
Exactement. Hein.
Voilà, donc est-ce que le PSG peut nous avoir des regrets au vu du scénario d'hier? On en parlera avec vous. N'hésitez pas pour rejoindre l'équipe de Rotten sans flamme 32-16 dès maintenant. Mais d'abord, on va parler. Il y a quelqu'un qui veut te parler de Michael Olysée.
Football.
C'est parti.
RMC, Rotten sans flamme.
Olysée dans la surface de réparation. Maintenant, le but d'Olysée. Ah, mais on laisse tout faire. Ah, dommage pour les Parisiens. Mais en même temps, il y a une telle intensité dans ce match que c'est dur pour tout le monde et pour la défense parisienne également. Michael Olysée qui égalise au Parc des Princes.
Allô, Jérôme.
Et avec nous en direct, c'est Michael Postel qui est journaliste chez Kicker. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir, Michael.
Bonsoir, enchanté.
Enchanté, bienvenue dans Rotten sans flamme. On voulait un avis de l'Allemagne sur le phénomène Olysée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Michael Olysée qui a été stratosphérique hier?
Tout à fait. Alors chez nous, on a aussi l'impression qu'il a fait un match extraordinaire. Par contre, il faut dire, on a des notes comme par exemple l'équipe les donne aussi. Chez nous, c'est pas sur 20. Chez nous, c'est 1, 2, 3, 4, 5 D'accord. et 6. Et donc 1 soyant le meilleur et 6 le plus mauvais. Et donc, pour Michael Olysée, on a donné 1,5, c'est à peu près 18 sur 20, alors, si on le dit de la manière française. Par contre, Luis Diaz, il y a 1,0, donc c'est un peu plus, ça serait 20 sur 20. Et Michael Olysée, il est impressionnant, mais on a vu quand même qu'il n'a pas marqué pour la première possibilité, là où il était.
Oui, le face-à-face avec sa
femme. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un petit
une
truc.
Qu'on a, une petite critique,
mais ce n'est pas une erreur quand même. Il a bien réagi, Safonov.
Michael, tu l'aurais mise, toi?
Pardon?
Tu l'aurais mise, toi, celle-là?
Normal, quoi. Hein.
Facile.
Non, on parle d'un très haut niveau, hein. C'est même pas mauvais, c'est juste quelque chose que lui, il a pas marqué, mais Luis Diaz, il a marqué quand même. Donc,
voilà. Donc, Michael, Postel qui voulait nous parler de Michael Olysée, parce que là-bas, c'est une star. On en parlait d'ailleurs hier avec Valentin Jamin. Ouais. Vous l'aimez, là-bas, en Allemagne, notre Français?
Tout à fait. On a vu que il a déjà montré son niveau contre le Real et maintenant il nous a convaincu un peu plus parce que c'est un match décisif. Il a normalement, on voit bien qu'il a des qualités extraordinaires, mais C'est contre Mayence, c'est contre Union Berlin, mais aussi c'est un match décisif. Donc il a montré que c'est
contre le champion d'Europe surtout.
C'est ça, tout à fait. Donc oui, on est très impressionné. On voit que c'est une vedette mondiale. Et en fait, on a un peu de souci pour le mondial où il y a pas que Olise, mais où il y a aussi Dembélé, Mbappé.
On parlera de l'équipe de France. D'ailleurs, ça sera demain dans Retête sans flamme. Votre avis, messieurs, sur le match de Olise, Jérôme.
Sur le match d'Olise hier, ce qui est essoulé, on parlait tout à l'heure au début de l'émission. Mais c'est vrai que tu sais pas ce qu'il va faire. C'est le lot des grands joueurs. Du moins, tu sais, c'est très simple. Hein. Avant le match, tu te dis quel joueur il faut contrer en priorité. On en a parlé hier dans Rotten sans flamme, François. Et moi, je disais en effet, et c'était un des thèmes. Olise, c'est le maillon fort. Est-ce que c'est
la principale menace?
Voilà. Écoute, on a eu la confirmation hier que dès qu'il touchait le ballon, il se passait beaucoup de choses et que, en effet, il a beaucoup trop touché. Alors, c'est le match qui a voulu ça parce que il y a eu des prises de risque de part et d'autre, et donc ça a donné cette liberté à Michael Olise. Et franchement, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que en face, il avait un client, il avait Nuno Mendes. Nuno Mendes, il en a mangé beaucoup des attaquants côté droit comme ça, dans la percussion, qui vont à droite, à gauche, ils savent pas trop, ils rentrent dans l'axe. Il en a eu et il a toujours pris le dessus sur ces joueurs-là. Hier, malheureusement pour Nuno Mendes et le PSG, mais 9 fois sur 10 Olise il passait. Et c'est ça qui est impressionnant. En plus, il a été efficace parce qu'il marque, parce que il donne, il provoque, parce que il se passe toujours des choses, et puis il a cette intelligence, si tu veux, et c'est pour ça qu'il a une trentaine de passes décisives depuis le début de l'année et qu'il est impressionnant. Et c'est pour ça que j'attendais pas ce match-là, la référence, parce que Michael, quand je t'entends, tu dis, t'as dit une phrase importante, que pour moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. C'est, on attendait, c'était pas Mayence en face, c'était le Paris Saint-Germain. Mais vous êtes d'accord quand même que même s'il fait des différences dans le championnat allemand avec des matchs d'un niveau inférieur, on n'avait aucun doute sur le fait que ce genre de match en demi-finale, la Ligue des Champions, peut-être en finale ou à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il passe le cap. Du moins, c'est un joueur incroyable.
Bien sûr, on savait bien qu'il a ses qualités, mais c'est déjà la troisième fois qu'il les a montrés à ce niveau-là. Hein. Donc oui, on savait bien sûr, c'est un joueur impressionnant. Hein. Mais
excusez-moi, moi je crois qu'on se rend pas compte de ce à quoi on est en train d'assister.
Ouais.
Ce joueur, par rapport à d'autres grands joueurs, je pense à Yamal, je pense à Moussiala, qui ont commencé aussi très jeunes, qui étaient Mbappé, qui était un petit peu programmé, qui était fort très très jeune. Lui, il est devenu assez fort et voire très fort sur le tard. Il a déjà 24 ans, ce garçon. Je pense qu'on se rend pas compte ce à quoi on est en train d'assister et de vivre. C'est un joueur hors norme. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est capable de faire, je pense que moi je vais même aller peut-être un peu loin. Je pense qu'il y a du zizou dans ce mec-là, dans sa façon d'être un peu nonchalant, dans sa façon de contrôler le ballon, dans sa façon de jouer avec son corps, de se déplacer entre les lignes, sa vision du jeu, de le dépasse. Je pense qu'on est en train d'assister à la naissance d'un crack, vraiment. Je pense qu'on est au tout début de ce qu'il est capable de faire encore, ce garçon. Moi ça faisait très très longtemps. On en a vu des bons joueurs, des grands joueurs qui vont
il y en a plein dans
tous les pays. Mais lui, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de différent, et il est capable de tout faire, à droite, à gauche, attaquant, numéro 10, faire des passes, marquer des buts, il court, des mecs qui ont mis le bouillon comme il a fait en première mi-temps à Nuno Mendes, sincèrement, il n'y en a pas.
Sur les dernières années,
personne n'a été capable de faire le dixième de ce qu'a fait, Olise hier. Moi, je pense qu'on est au début de quelque chose de gigantesque.
Moi, Michael, j'avais une question pour vous en Allemagne. Là. Si Olise avait mis le but que vous dites, c'est à cause de ça qu'il a qu'il n'a pas eu un.
Oui.
S'il avait mis le but, il aurait eu un.
Ah oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Il aurait eu zéro. Bah, il avait encore.
C'était pardon. Juste parce qu'il a loupé l'occasion, donc c'est ça.
C'est ça, et c'est un, oui, c'est un peu
son pointilleux.
Les tâches défensives.
La rigueur allemande.
Ils sont pointilleux.
Ah. Oui, bah oui, parfois. Oui.
Ah non.
Mais non, vous avez raison.
Non, c'était juste pour savoir mais, ça parce que.
Mais c'est aussi, ouais, mais c'est aussi sa mentalité. Hein. Si vous voyez, si vous vous rappelez de la dernière minute contre le Real, le match était décidé. Et lui, il aurait pu aller au corner.
Oui,
et,
c'est vrai. Il va aller marquer ce but à la
Voilà, visée, c'est ouais. ça. Donc, ouais. c'est une mentalité énorme. Et ouais. on se rend compte, on sait bien en Allemagne et on est très fiers de l'avoir dans la Bundesliga.
Ben, on imagine bien.
On va bientôt vous le prendre, vous inquiétez pas. Allez. Merci, Michael.
Merci, Michael. Michael Post, journaliste chez Kicker. Merci beaucoup.
On se rappellera au match retour.
Heureusement que vous n'avez pas joué en Allemagne, vous, parce que vous auriez vu un dans l'équipe, dans le journal Kicker, vous auriez fait oh, c'est quoi cette note?
C'est quoi ce bordel?
On aurait sauté.
Mais patron, juste pour finir là-dessus, pour rebondir sur tes propos du gars sur il y a un peu de Zizou et tout ça, là où je te rejoins sur le fait que ce mec-là, quand il touche le ballon, il se passe quelque chose, et c'est rare. En fait, c'est rare dans les. Oui, c'est rare.
Il ouvre des angles, de passe, il trouve quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que moi, j'ai pas vu.
Non, mais aujourd'hui.
J'ai pas vu ces d'autres. Alors après, il y a d'autres joueurs avec d'autres talents.
Oui, bien sûr.
C'est encore un nouveau football, j'ai l'impression, un nouveau truc, quoi.
Aujourd'hui, Olysée, et on fera le débat dans la semaine, mais Olysée, c'est le meilleur joueur français.
Bah, tiens, on en parlera demain.
Mais
bien.
Mais
demain, on va parler d'Olysée. On va parler de cette équipe de France.
Je repense à Benoît Boutron qui peut parler de Cherki, qui me dit, oh, Cherki, joueur différent des autres.
C'est un joueur différent.
Ah ouais, non, mais alors quand tu vas au Lycée, j'ai hâte que Benoît revienne. Quand tu vas au Lycée, tu le traitais comment alors
au Lycée? Tu le démarres rien que pour son retour. Ne vous inquiétez pas, on va mettre ça en boîte avec Niki. Il prévoit tout ça, c'est noté déjà.
Quand il touche le ballon, c'est un joueur différent, il a dit.
Il a dit ça, non?
Ouais.
Bon, en tout cas, Olysée est un joueur différent. Là-dessus, on est d'accord. PSG Bayern, on continue d'en parler avec cette question. Est-ce que PSG peut nourrir des regrets au vu du scénario d'hier? N'hésitez pas à nous rejoindre. 32-16, le WhatsApp RMC également, pour revenir sur ce match de légende. A tout de suite dans Rotten sans flamme sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.